Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Oui, bienvenue à vous si vous nous retrouvez en direct. Le journal dans quelques secondes. 19h10, la carte blanche de Philippe Besson. Et puis 19h20, le grand débat du Club des idées. Faut-il abolir l'héritage ? Joe Biden annonce vouloir taxer les successions aux États-Unis. Et voilà que le débat rebondit chez nous en France. On en parlera tout à l'heure avec nos invités. Le journal d'abord avec Isabelle Millet. 19h, belle soirée à l'écoute d'Europe 1.
La rentrée ce lundi au collège et au lycée, une semaine après les écoliers, ce sont les élèves du second degré qui ont retrouvé leurs camarades.
Oui, une rentrée en demi-jauge, le gouvernement mis sur le déploiement d'autotests et d'un protocole sanitaire très strict pour éviter les contaminations.
Au sommaire également, le coup d'envoi du premier procès aux assises de Nordal-Lelandais. En attendant de devoir répondre de la mort de la petite Maïlys, il est jugé pour le meurtre du caporal Arthur Noyer.
Les régionales en PACA, c'est le grand cafouillage après son alliance avec LREM, Renault Muselier Rétropédale.
Et nous, on a un petit peu de mal à comprendre. Heureusement, Louis Dragnel viendra nous expliquer les dessous de cette tambouille.
De mystérieuses attaques aux États-Unis, les services de renseignement américains enquêtent sur une nouvelle arme étonnante et inquiétante.
Et puis Manchester City PSG, demain à 7h6, on fera moins les malins. Demi-finale retour de Ligue des Champions.
La météo avec Anissa Dadiba, on va aussi moins faire les malins demain, puisque la France est coupée en deux.
Oui, avec une dépression qui concerne toute la moitié nord, avec de la pluie et du vent fort. Donc demain, il faudra des parapluies, mais il risque de s'envoler. Et dans le sud, l'atmosphère sera bien plus printanière, je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Après un mois à la maison, c'était donc la rentrée pour les collégiens et pour les lycéens. Ce lundi, nouvelle étape du déconfinement, mais avec bien sûr un protocole strict et la mise en place de demi-jauges.
Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, qui était notre invité tout à l'heure sur Europe 1, a confirmé que le gouvernement compte beaucoup sur les autotests pour limiter les contaminations.
Pour les adultes, ils sont déjà disponibles, c'est-à-dire ils sont arrivés à l'école primaire la semaine dernière. Ils sont en train d'arriver dans les collèges et les lycées pour les adultes. Ça fait déjà 8 millions de tests que nous livrons cette semaine à cette fin. Et puis ensuite, la semaine prochaine, les lycéens sont concernés avec un test par semaine qu'ils se feront eux-mêmes, mais sous la supervision, s'agissant des lycéens, sous la supervision des personnels dédiés. Peut-être que dans quelques semaines, on leur proposera de le faire à la maison, mais pour l'instant, ça se passe dans l'établissement. Vous avez en amont de tout ça une autorisation des parents.
S'ils disent non, il n'y a pas de test.
S'ils disent non, il n'y a pas de test. Non. Alors,
on peut refuser les autotests.
On a le droit de refuser les autotests. Je ne le souhaite pas, évidemment, mais c'est juridiquement
ainsi. Oui, il faut
que
chacun joue le jeu. Cette question, Jean-Michel Blanquer, des autotests est très importante. Pourquoi avoir tant attendu pour les mettre en place dans les écoles ? J'ai vu que les Britanniques l'avaient fait dès le 8 mars.
Alors, d'abord, il y avait des enjeux de validation scientifique. Et puis, rappelons que nous sommes le pays qui teste le plus en Europe et les autotests viennent s'ajouter. Oui. Aux tests antigéniques.
C'est sûr, ça, on est vraiment le pays qui teste le plus en Europe.
Oui, et en plus, la France, vous le savez, teste gratuitement, ce qui est assez exceptionnel.
Jean-Michel Blanquer, qui était l'invité d'Europe 1 ce soir. Virginie Riva, vous êtes notre spécialiste éducation, rentrée sous Covid, donc avec, pour les enseignants, encore beaucoup d'incertitudes.
Oui, et notamment pour le bac, avec cette fameuse question du grand oral maintenu. Tous les syndicats enseignants demandaient sa suppression, ils n'ont pas été entendus. Pourtant, Jean-Michel Blanquer l'a redit, ce soir, il reste ouvert à des aménagements. L'élève pourra amener un mot, par exemple, pour expliquer ce qu'il n'a pas vu, éviter ainsi les impasses, a confirmé ce soir le ministre. Mais on ne sait pas encore quelles autres modifications pourraient être décidées. Ce qui est sûr, c'est que ce bac inquiète également les élèves. L'Union nationale lycéenne avait appelé au blocage des lycées dès hier soir. Ce soir, il revendique 200 blocages dans toute la France. Le ministère, lui, en compte une centaine. Deuxième point noir, les autotests. Ce sont surtout ceux qu'il va falloir faire passer aux lycées, aux élèves, à partir de lundi prochain, qui posent problème au personnel. Un protocole leur a été envoyé la semaine dernière, avec des règles sanitaire très strict et pour tous, ça n'est pas à l'école d'organiser ces autotests. Enfin, dernier sujet, la vaccination. Les personnels ne sont prioritaires mais qu'à partir de 55 ans, avec des créneaux spécifiques. Et comme dans le reste de la population, pour tous ceux qui présentent des comorbidités, ils sont en réalité quasiment assujettis aux mêmes critères que les autres, alors qu'ils pensaient obtenir davantage avant la fin de l'année scolaire.
Précision de Virginie Riva. Notez que le ministre de la Santé, Olivier Véran, sera demain matin à 8h15 l'invité de Sonia Mabrouk sur Europe 1. Les restaurants, cafés, entreprises de la culture ou de l'événementiel qui rouvriront partiellement seront éligibles dès le mois de juin au fonds de solidarité et ce même si leurs pertes de chiffre d'affaires sont inférieures à 50%. Confirmation aujourd'hui du ministre de l'économie.
Les mots à présent, les mots de Nordal-Lelandais à l'ouverture de son procès à Chambéry. Je n'ai jamais voulu donner la mort à Arthur Noyer, a-t-il dit.
Il s'agit du premier procès pour l'ancien maître chien accusé également, vous le savez, du meurtre de la petite Maïlys, jugé pour avoir tué donc le caporal en 2017 près de Chambéry. Jean-Luc Bougeon, vous avez suivi cette audience pour Europe 1. Nordal-Lelandais s'est présenté aujourd'hui comme un gendre idéal et en ce moment, Jean-Luc, c'est sa mère qui est en train de témoigner.
Oui, effectivement. Et depuis tout à l'heure, Christiane Lelandais, retraitée de 72 ans, ne fait que confirmer la propre présentation flatteuse de son fils. En parlant de lui, elle décrit un enfant doux, gentil, puis ensuite un homme bien, un bon fils, serviable. Certes, elle concède qu'il était un peu renformé, qu'il parlait peu, alors même qu'il vivait encore à presque 35 ans dans la maison familiale. Mais je le laissais tranquille, il sortait à Chambéry, il allait voir ses copains, il avait sa vie, je l'embêtais pas. Ce qui frappe, c'est la façon dont elle passe presque complètement sous silence les faits, l'assassinat de Maëlys, puis le meurtre d'Arthur Noyer, qu'elle évacue en quelques mots. Ce qui s'est passé, je ne l'ai pas vu venir. Comme une ellipse dans ses propos, elle passe directement au récit du séjour de son fils en hôpital psychiatrique, où, abruti par les médicaments, elle avait l'impression de voir un zombie. Mais depuis quelque temps, j'ai retrouvé mon fils, il est bien aujourd'hui, Nordal. Des mots prononcés juste devant la famille d'Arthur Noyer, juste devant le portrait du militaire tué par le Landais, qui résonne étrangement dans la salle d'audience. Ce que lui fait remarquer l'avocat de la famille Noyer, qui s'adresse alors à elle. Savez-vous, madame, que les époux Noyer, eux, ne retrouveront jamais leur fils ? Silence de Christiane Lelandais. Pouvez-vous maintenant demander à votre fils de dire la vérité ? Demande l'avocat. La maman s'exécute et Nordal Lelandais de répéter ce qu'il dit depuis le début. Oui, j'ai bien tué Arthur Noyer, mais c'était involontaire. Un coup pour rien pour l'accusation.
Merci Jean-Luc Bougeon qui suit ce procès devant les assises de Chambéry pour Europe 1.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Et la suite du journal, toujours Isabelle Millet. Alors, face au tollé chez les Républicains, Renaud Muselier, le président de la région PACA, s'explique ce soir.
Oui, en gros, après avoir tendu la main à La République En Marche, il affirme aujourd'hui qu'il n'y aura pas d'accord d'appareil et qu'il ne veut pas de ténor LREM sur sa liste. Des explications pour le moins filandreuses. On a bien besoin de vous, Louis Dragnel, parce qu'on a un peu de mal à comprendre.
C'est vrai que cette bouillabaisse politique a un goût bizarre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'initialement, le président de la région sortant, Renaud Muselier, avait l'intention de composer lui-même sa liste sans faire de bruit et sans être vu, en clair, qu'on lui fiche la paix. Et puis, deux éléments ont perturbé la préparation de cette tambouille. Premièrement, face à un Rassemblement national très fort, eh bien, Renaud Muselier a craint que les Républicains puissent perdre la région. Deuxièmement, Emmanuel Macron, obsédé par la reconfiguration politique du pays, passant par un affaiblissement de la droite, eh bien le chef de l'État a tout fait pour qu'un accord se fasse localement entre les Républicains et La République En Marche. Alors demain aura lieu une grande explication à la Commission nationale d'investiture des Républicains, présidée par Éric Ciotti, totalement opposé à l'idée d'un accord avec Emmanuel Macron. Donc demain, Renaud Muselier sera présent à cette réunion à double titre. D'abord pour expliquer ce choix très critiqué par son parti qui lui a retiré son investiture, mais aussi, et ça fait jaser dans les couloirs du parti, parce que les statuts de la commission d'investiture stipulent que Muselier est le représentant de Christian Jacob, le président du mouvement. Pour le député Olivier Marleix, l'enjeu, c'est qu'Emmanuel Macron comprenne que tout le monde n'est pas à vendre. Et de conclure, il y a une bonne nouvelle. Si Emmanuel Macron fait ça, c'est parce qu'il a peur d'être battu en 2022.
Eh bien, merci Louis Dragnel, chef adjoint du service politique d'Europe 1.
Les responsables de la sécurité nationale, la Maison Blanche, auraient-ils été victimes d'attaques aux ondes sonores ? Alors de quoi s'agit-il ? C'est un scénario de science-fiction sur lequel enquête le FBI et on va tout vous expliquer.
Parce qu'on en parle forcément avec notre spécialiste des affaires internationales, c'est l'œil de Didier François. Bonsoir Didier.
Bonjour.
Alors visiblement, un haut responsable de la présidence américaine aurait été victime d'une nouvelle arme étonnante alors qu'il se promenait dans un parc de Washington.
Voilà, c'est ça, c'était dans le parc de l'Ellipse, hein, vous savez, ce fameux South Park qui est situé juste en lisière sud de la Maison Blanche et qui est donc extrêmement fréquenté par le personnel de la présidence. On est au mois de novembre, après les élections, et un responsable du Conseil national de sécurité s'y promène et il commence à être gêné par un sifflement dans ses oreilles qui se transforme rapidement en une série de bourdonnements. Ça va en s'amplifiant jusqu'à résonner dans sa boîte crânienne à en devenir insupportable. D'ailleurs, il s'effondre, perte d'équilibre, vertige, maux de tête, et puis évidemment, dans les jours qui suivent, des acouphènes, des troubles du sommeil, un fort ralentissement cognitif. En gros, il n'arrive plus à se concentrer et donc à réfléchir, c'est quand même très handicapant et très inquiétant, surtout qu'il ne présentait au départ aucune prédisposition à une telle réaction. Et bien alors là, les agents du Secret Service, qui sont chargés de la sécurité de la Maison Blanche, se souviennent d'un étrange précédent, c'était en 2016, à Cuba, il y avait 21 diplomates américains qui avaient présenté exactement les mêmes symptômes. Et puis l'année suivante, à nouveau, cette fois c'est en Chine, à Canton, du personnel diplomatique est frappé par ce même mal mystérieux qui est donc... Ça provoque l'ouverture d'une enquête. Elle est menée par les meilleurs spécialistes médicaux américains qui constatent des lésions cérébrales sur tous les patients examinés, vraisemblablement causées par une exposition trop importante à des ondes sonores. pulser de forte intensité.
C'est donc l'hypothèse d'une attaque au canon à son, c'est
ça ? Eh ben voilà, ça y ressemble, sachant que ce type de matériel existe bien. Le Long Range Acoustic Device, par exemple, équipe les forces de police américaines. Elle a été déjà utilisée à Pittsburgh en 2009 contre les émeutiers qui s'en prenaient au sommet du G20. Mais seulement, cette technologie, elle utilise des infrasons. C'est très concentré. Ils vont agir comme une sorte de coup de poing sonore. Ça peut même vous faire vomir. Mais ça ne provoque pas les symptômes qui sont ceux constatés dans le cas des diplomates. Ce qui est bien plus probable, c'est qu'ils aient été soumis à une opération de surveillance un petit peu tôt agressive, avec des espions qui les écoutaient en permanence, avec du matériel d'interception comme des micros directionnels en... Alors là, pour le coup, c'est des ultrasons, et ça finit par créer autour de leur cible une sorte de cage de Faraday, et c'est donc cette surexposition aux ondes qui aurait provoqué ces traumatismes crâniens sans qu'il y ait de choc physique direct.
Incroyable. Ah oui, quelle affaire. Stupéfiant, stupéfiant. Merci, on en apprend des choses avec vous. Merci mon cher Didier, l'œil de Didier François, c'est tous les soirs dans le journal de 19h.
Et demain, Julien, à cette heure-ci, on y sera presque. Demi-finale, retour de Ligue des Champions pour le PSG face à Manchester City. Kylian Mbappé, vous voyez, est incertain, ça m'émeut. On a annoncé que l'attaquant a souffert d'une contracture au mollet droit au match aller. Les Parisiens qui pourtant auront bien besoin de tout leur talent. Marco Verratti s'attend en tout cas à un match compliqué. Demain soir, il faudra presque un miracle.
Priez Dieu. Non, qu'est-ce qu'on va faire, c'est normal, on n'est pas une équipe des aliens, c'est sûr qu'on va souffrir. On joue en Champions League, aussi eux ils ont la même envie de gagner que nous. Et les moments qu'on doit souffrir, il faut souffrir ensemble. Il faut rester lucide, il faut rester calme, parce qu'on va avoir notre opportunité. Et je pense qu'on est là, on est proche, on doit tout donner sur le terrain. Ça passe pour des petits détails, c'est à nous de jouer aussi avec notre style demain.
Voilà, Marco Verratti, le milieu de terrain du PSG, au micro Europe 1 de Julien Froment. Grande soirée foot hein, demain.
Évidemment, match que vous pourrez suivre en direct et en intégralité sur Europe 1. Grande soirée foot dès 20h, juste après le 18-20.
Et puis c'est le nouveau podcast d'Europe 1 réalisé à l'occasion du 200e anniversaire de la mort de Napoléon. Il est disponible dès aujourd'hui sur notre site internet. Napoléon, personnalité historique préférée des Français. Vous y découvrirez des tas d'infos et d'anecdotes qu'on ne trouve pas dans les livres d'histoire. Dans ce podcast en 3 épisodes réalisé par Sébastien Guidis et raconté par Laure d'Autriche.
Oui, et on en parlera très largement mercredi dans notre journée spéciale consacrée à Napoléon sur Europe 1 et notamment votre 18-20 d'Europe 1 dans Europe Soir, ici même à ce micro. Rendez-vous donc mercredi. Merci Isabelle, on vous retrouve demain à partir de 18h pour le journal et évidemment toute l'info. La météo avec Anissa qui nous dit que le temps change demain avec de l'humidité au nord et des nuages et évidemment le sud est en partie préservé.
C'est ça, exactement, c'est résumé.
Je dis évidemment parce
Julien.
Que c'est un peu toujours le cas quand même. Hein.
Oui, alors ces derniers temps, on avait un peu l'inverse. On avait du mauvais temps dans le sud et du soleil au nord, mais là, on a envie de dire que voilà, la norme
retour
est de retour.
À la normale.
Exactement. Alors nous avons une dépression en fait sur les îles britanniques actuellement et cette dépression qui est assez forte, elle provoque demain un très gros coup de vent sur la moitié nord. Ce coup de vent est accompagné de pluie dès le début de la journée. Donc si vous nous écoutez et que vous habitez dans une région située au nord de la Loire, demain on ne sort pas sans son parapluie. Mais attention, il risque de s'envoler puisqu'on attend en même temps des rafales jusqu'à 70 km/h en ville et une journée tempétueuse sur les côtes de la Manche où là le vent pourrait dépasser les 100 km/h. Dans la moitié sud du pays, vous le disiez Julien, la journée est bien plus calme, plus printanière, avec de belles éclaircies. Côté température, c'est la même chose. Alors nous aurons 5 à 10 degrés le matin, 5 à Charleville-Mézières, 8 à Lille, 10 à Nice et Paris. Et au meilleur de la journée, il fait plus frais au nord, avec 12 à Boulogne-sur-Mer, 13 à Dunkerque, 16 à Nantes, 17 à Bordeaux et Paris, et dans le sud de la grande douceur, avec 20 degrés pour Marseille, et 23 la maximale pour Carcassonne. Ou
c'est
encore le Luc dans le Var. Enfin, ouais. Cette petite
pourquoi
ville.
Carcassonne? Ça fait deux fois que vous me parlez de Carcassonne.
C'est la maximale, j'aime
c'est
bien.
La maximale.
Écoutez, j'ai envie
bien.
D'aller manger un cassoulet.
Eh bien, vous avez raison. Vous avez raison. Merci Anissa, on vous retrouve demain, évidemment, à 18h. 19h15, vous restez avec nous dans quelques secondes. Le grand débat du Club des Idées sur l'héritage. Faut-il en finir avec les grosses successions? On en parlera avec nos invités. D'abord, la carte blanche, signée comme chaque lundi de l'écrivain Philippe Besson.
La Caisse d'Épargne vous présente la carte blanche. Caisse d'Épargne, vous êtes utile. Europe Soir, Julien Bugier.
Je vous demande de vous arrêter.
Et je suis très en colère.
Écoutez, vous êtes rapide. C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité.
Oui, Philippe Besson qui s'échauffe dans le studio d'Europe Soir, vous ne le voyez
absolument.
Pas, mais Je vous assure que c'est vrai, il fait des mouvements de tête, et il s'échauffe les bras. Bonsoir mon cher Philippe.
Mais c'est ça quand on est un athlète, hein, c'est
et
ça.
Et surtout parce que ce soir, vous allez parler football. C'est assez rare. C'est assez rare. Vous allez parler d'une initiative prise ce week-end par le football anglais, le boycott des réseaux sociaux.
Oui, en effet, Julien, depuis vendredi jusqu'à aujourd'hui, car ce lundi est jour férié de l'autre côté de la Manche, eh ben, aucun club ni aucune autorité du football britannique n'a posté de messages sur Facebook, Instagram ou Twitter. Cette initiative d'ailleurs fait tache d'huile, hein, puisque le tournoi de Wimbledon, les fédérations anglaises de rugby, de cyclisme et de cricket, ainsi que la Formule 1, l'ont rejointe. Lewis Hamilton a même fait en sorte que ses réseaux restent noirs ce week-end, comme il l'a déclaré lui-même. La raison, il s'agit de protester contre l'inertie des médias sociaux dans la lutte contre les insultes racistes et les discriminations en ligne. En effet, de nombreux joueurs sont régulièrement la cible de messages haineux, mais les auteurs de ces messages, généralement anonymes, ne sont presque jamais inquiétés. Alors, les responsables du foot anglais avaient demandé en février aux dirigeants de Twitter et de Facebook de mettre en place des filtres automatiques ou de retirer rapidement les insultes. Leur requête est évidemment restée lettre morte, d'où ce geste symbolique.
Cela étant, Philippe, le raciste n'a pas attendu les réseaux sociaux pour s'exprimer dans le sport. Ça se fait aussi dans les stades, par exemple.
Oui, vous avez raison, Julien. Mais la différence, c'est qu'à chaque saison, en Angleterre, on procède à une centaine d'arrestations, dans les stades précisément, pour ces motifs. Et le phénomène est ainsi devenu marginal. En revanche, en ligne, sous couvert d'anonymat, le racisme et les discriminations déferlent et prolifèrent. Abrités derrière le pseudo, des débiles de plus en plus nombreux crachent leur haine et ils le font en toute impunité.
Oui, mais ça a des bons aspects aussi, les réseaux sociaux, les révolutions arabes. L'explosion du mouvement MeToo, c'est grâce aux réseaux sociaux tout cela aussi.
Non mais j'oublie pas les vertus des réseaux sociaux, mais je constate avec beaucoup d'autres qu'on s'est hélas éloigné de l'ambition originelle et que la vertu cède trop souvent le pas au vice. Faut tout de même redire, afin qu'on ne s'y habitue pas, que les réseaux sociaux industrialisent et désincarnent les relations humaines, que mal utilisés, ils créent des addictions, des dépendances, puisque l'usager peut devenir comme un drogué réclamant sa dose. Redire aussi qu'ils alimentent un stress permanent, notamment parce qu'une information négative s'y diffuse 10 fois plus vite, qu'ils nourrissent parfois les replis communautaires et qu'ils menacent la vie privée. C'est pas rien tout de même.
Bien, vous allez jusqu'à dire d'ailleurs que la balance bénéfice-risque, dont on parle tant, par exemple au sujet des vaccins, penche en faveur des risques s'agissant de ces réseaux sociaux.
Ben oui, évaluons-la si vous voulez bien cette balance. Vous avez évoqué les bienfaits, observons les dégâts. On vient de le dire, c'est là que s'expriment sans phare, sans retenue et dans la fange de la clandestinité les pires pulsions humaines. Le racisme, l'antisémitisme, l'homophobie, la misogynie. C'est là que prospèrent les nouvelles formes d'intimidation et de harcèlement, en particulier à l'encontre des adolescents, des gens fragiles, des minorités. C'est là encore que fleurissent les théories complotistes, que s'échangent les infos bidons, que se relaient des fantasmes, que s'alimentent les populismes. C'est là enfin, la plupart du temps, que les faibles se radicalisent et qu'éclosent les futurs terroristes. À quel moment on va admettre qu'il s'agit de dommages effrayants ? Alors à la fin, j'ai bien conscience que je n'aurais convaincu personne. Je suis même persuadé que cette chronique va se faire pourrir par des trolls. Et je sais parfaitement qu'aucune mesure probante ne sera prise par les géants du net pour contrer ces dérives. Mais comme les footballeurs anglais, je crois à la force du symbole et je veux espérer qu'une résistance à la haine et à la bêtise est encore possible. Elle dépend de nous.
Et pourtant, c'est grâce aussi à ces réseaux sociaux que vos chroniques, ici même, peuvent être vues des dizaines de milliers de fois par certains, par certains fans
vertus
de ces réseaux sociaux. Il y a parfois quelques vertus. Vous êtes un pragmatique. Ça me fait plaisir, mon cher Philippe Besson. Merci pour cette carte blanche.
Merci à vous.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et ce soir, dans le Club des Idées, débat inflammable. Donc, faut-il en finir et taxer plus l'héritage ? La question fait polémique, après les annonces notamment du président Joe Biden aux États-Unis, qui dit vouloir taxer les riches et leur patrimoine pour financer son gigantesque plan de relance. Et par voie de conséquence, eh bien, le débat rebondit chez nous en France. Faut-il taxer l'héritage pour rembourser la dette Covid, par exemple, et réduire les inégalités ? La question n'est pas seulement financière, elle est aussi, d'une certaine manière, philosophique. En 1778 déjà, Beaumarchais écrivait dans Le Mariage de Figaro « Qu'avez-vous fait pour tant de bien ? Vous vous êtes donné la peine de naître et rien de plus. » On en parle donc ce soir avec nos invités. Bonsoir Denis Père.
Bonsoir.
Vous êtes essayiste, entrepreneur, fondateur de Nous Citoyens et auteur de Le Contrat Mondial aux éditions First Edition. On en parle également avec Yannick Mireur, politologue et spécialiste des États-Unis. Bonsoir Yannick.
Bonsoir.
Et avec Frédéric Moréas. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avocat fiscaliste à Challenge. Avocat, on écoute d'abord le président américain Joe Biden.
Commençons par ce que je ne vais pas faire. Je n'imposerai aucune augmentation d'impôts aux personnes gagnant moins de 400 000 dollars. Mais il est temps que les entreprises américaines et que les 1% d'Américains les plus riches commencent à payer leur juste part. Simplement leur juste part.
taxer les riches, instaurer un impôt sur les successions, c'est une révolution presque socialiste qu'entame d'une certaine manière Joe Biden, est-il en train de changer le logiciel du capitalisme américain ? Yannick Mireur.
Écoutez, il essaie peut-être parce qu'il a compris que le grand défi actuel dans la mondialisation, c'est celui de restaurer un pacte social aux États-Unis, dont la colonne vertébrale historiquement était la classe moyenne,
oui,
qui fonctionne et qui rassemble le pays autant que faire se peut sur les sujets plus culturels, mais aussi sur un projet collectif, économique, et pour cela, c'est la puissance et le leadership américain en matière de technologie, ce qui veut dire investir dans les industries, créer les emplois de demain, et aussi avoir un système de redistribution des richesses ainsi créées qui soit accepté par tous.
En Mais résumé, sur la question de l'héritage qui nous anime évidemment ce soir, il dit ceci en substance, aujourd'hui aux États-Unis, l'idée de taxer l'héritage, c'était jusqu'à présent un sujet tabou, car il y avait une franchise en cas d'héritage, tenez-vous bien, une franchise de 11,7 millions de dollars par succession. Il veut ramener visiblement cette franchise largement en dessous
à
5 millions. Mm-hmm. C'est une révolution tout de même.
Oui, oui, c'est une révolution. Il faut savoir quand même que ça touche extrêmement peu de monde, du fait d'ailleurs des sommes engagées. Hein. 0,2% des foyers qui pourraient être concernés seulement, donc ça fait très peu de monde. Mais il faut dire aussi qu'on part culturellement dans un système qui est tout à fait différent,
oui,
parce qu'aux États-Unis, vous avez la pratique, par exemple, de ce qu'on appelle les charités, hein, c'est-à-dire les donations défiscalisées, qui engagent des fonds absolument colossaux. Tous les grands musées, par exemple, américains, depuis les Rockefeller, pour prendre l'exemple le plus évident du Metropolitan et du Musée d'Art Moderne de New York, ont été créés, financés, soutenus, comme ça. Les universités, c'est comme ça aussi. Et ce sont des sommes qui feraient rêver beaucoup de présidents d'université en Europe, parce que la culture donc, n'est pas du tout la même. Mmh. Donc on vient de beaucoup plus loin, d'où ce que vous dites, la révolution, vous avez raison de le souligner.
Avec une différence certaine, la réserve héréditaire aux États-Unis est beaucoup plus flexible en France. Alors qu'est-ce que c'est la réserve héréditaire ? C'est le fait d'avoir l'obligation de léguer une partie de sa fortune à ses enfants, à ses héritiers, avec cette idée de taxer l'héritage, qui est d'ailleurs défendue par des grosses fortunes américaines qui ont décidé de déshériter leurs enfants pour partie. On pense à Bill Clinton, Elton John, Ashton Kutcher, Mila Kunis, la chanteuse. « Mes enfants n'auront rien de gros », disent-ils. « Nous donnerons notre argent pour la plus grande partie à des associations ». Et moi, j'aime beaucoup cette phrase de Warren Buffett, et puis vous réagissez derrière, Denis Père. « Une personne très riche, dit-il, doit laisser suffisamment à ses enfants pour qu'ils fassent ce qu'ils veulent, mais pas assez pour qu'ils ne fassent rien. »
Oui, c'est très intéressant. Bill Gates a dit un peu la même chose aussi. Bill Gates, qui a une fortune aussi colossale, hein, au moins équivalente à celle de Warren Buffett, de plusieurs centaines de milliards, de 120 milliards, je crois, de dollars, a dit il y a quelques années, moi, je ne donnerai que 20 millions de dollars par enfant, c'est déjà considérable.
Mais c'est
rien du tout par rapport à ce qu'il possède. Et exactement dans cet esprit, c'est-à-dire de dire, je veux que mes enfants aient un projet dans la vie, je ne veux pas qu'ils soient des plutocrates qui, effectivement, profitent de l'argent qu'ils n'ont pas gagné. Je trouve que c'est une philosophie intéressante et je pense qu'elle mériterait de s'appliquer en France, où effectivement on a toujours cette réserve héréditaire qui empêche effectivement d'allouer comme on le souhaite son patrimoine.
On se souvient de l'affaire de Johnny Hallyday, hein, c'est ce qu'il avait voulu faire. Il avait voulu déshériter en partie ses enfants et il n'avait pas pu le faire.
Mais par contre, sur les taux quand même qui sont en jeu, il faut quand même se rappeler qu'effectivement, bien dire aujourd'hui qu'aux États-Unis, la fiscalité de l'héritage est minime, effectivement, c'est à partir de 11 millions de dollars. En fait, Trump avait doublé, hein. Trump était passé de 5 à 11, effectivement, donc Biden veut juste revenir à ce qu'était l'État avant Trump. Et aujourd'hui, vous n'avez que 1 pour 1000 des gens qui payent l'impôt sur l'héritage aux États-Unis. Il y a 20% des gens en France qui le payent. Donc, on parle quand même de choses qui sont très, très différentes en termes de
Mais quand
de
on parle
quantité.
D'abroger l'héritage, ça concerne évidemment majoritairement les grandes fortunes. Ça ne concerne pas les petites donations de 20 000, de 100 000, de 200 000 euros. Ça concerne les très grands milliardaires qu'on vient de citer. Je voudrais en tout cas qu'on s'intéresse d'abord à celle-ci, parce que je vois Frédéric Morellas qui me fait nom de la tête. Question pour vous, tiens. Est-ce que l'héritage favorise la concentration des richesses ?
Alors, l'héritage favorise sans doute un peu la concentration des richesses, mais la différence principale entre la France et les États-Unis, c'est d'abord l'abattement. Parce que l'abattement aux États-Unis, il est de 11 millions de dollars, on part de cette situation. Et quand vous parliez...
C'est-à-dire, on transmet 11 millions à ses enfants, on paye zéro impôt.
Et vous parliez de donations 100 000, 200 000, eh bien non, en France, l'abattement, il n'est que de 100 000. Donc ça veut dire qu'à partir de 100 000 euros, vous commencez à payer des impôts. Alors, ils sont certes très progressifs, hein, ils vont de 5% à 45% au-delà d'un million 8.
C'est comme l'impôt sur le revenu. Hein.
C'est progressif, exactement. Donc l'idée, c'est encore une fois de redistribuer au maximum dans le cadre des successions. Mais dans les successions, il y a deux choses différentes. Il y a évidemment les successions qui concernent les liquidités et l'immobilier. Et après, il y a les successions qui concernent les entreprises. Et ça, c'est un autre débat beaucoup plus complexe. et il faut vraiment aller dans ce sens-là, d'une plus grande exonération sans doute.
Alors, sur ce point, Denis Père, est-ce que l'héritage favorise la concentration des richesses? Moi, j'ai vu par exemple un chiffre, une enquête de France Stratégie, qui nous dit seulement 26% des moins riches déclarent avoir reçu un héritage, contre 42% des plus riches. Autrement dit, plus on est riche, plus on reçoit des héritages, et par voie de conséquence, qui sont importants.
Oui, moi je crois que ce que cherche à faire Biden est intéressant, c'est-à-dire qu'il garde finalement une franchise relativement significative, qu'on a rappelé à l'instant, effectivement, en France, on est pratiquement taxé au premier euro, enfin, il y a 100 000 euros d'abattement par enfant, mais ça, on a très vite consommé la somme. Aux États-Unis, on est toujours dans une logique où on laisse effectivement transférer des sommes relativement importantes, mais au-delà de ces sommes, la fiscalité va être très lourde, parce que ce que vous n'avez pas dit, c'est qu'il va aussi appliquer sa nouvelle fiscalité des plus-values, c'est-à-dire que les plus-values latentes vont être taxées aussi au-delà, effectivement, du seuil, au-delà de la franchise. Donc, il y a une logique qui consiste à dire, au-delà d'une certaine somme, l'État va récupérer une partie significative de cet argent pour éviter que se développe une espèce de ploutocratie, effectivement, d'individus qui ont beaucoup d'argent. On parle aux États-Unis de la situation de Paris Hilton. Hein, c'est-à-dire, on voit bien ce dont on veut parler. Et je trouve que c'est intéressant. Nous, en France, on a tendance à taxer beaucoup très vite et finalement à empêcher les classes moyennes de transférer pas mal d'argent à leurs enfants. Alors, je trouve que c'est dommage.
On parlera dans quelques secondes, juste après la première pause, justement, de la taxation de l'héritage et notamment des grandes fortunes, qui est notre sujet ce soir, dans quelques secondes. Est-ce que ça peut concerner la société française? On en parle après la pub. 19h29, restez avec nous tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h30, la suite du Club des Idées, faut-il en finir et taxer plus l'héritage? C'est donc le débat ce soir, après la polémique survenue aux États-Unis et les annonces du président Joe Biden, qui dit vouloir taxer les riches et donc leur patrimoine pour financer son gigantesque plan de relance. On en parle avec nos invités. Denis Père, notamment essayiste et entrepreneur, fondateur de Nous Citoyens et auteur de Le Contrat Mondial aux éditions First Edition. Est-ce que plus on est riche, plus on hérite? Est-ce que c'est la première des inégalités aujourd'hui dans notre pays?
Moi, je pense qu'au-delà d'une certaine somme...
J'irai même plus loin, pardon, et puis je vous laisse répondre, sur un plan philosophique, parce que c'est aussi ça qui nous agite ce soir dans ce débat. Est-il compatible avec une société comme la nôtre qui est axée sur le mérite? Être héritier est une condition de naissance, ça n'est pas une valeur.
C'est une vraie question qui mérite d'être posée. Ce qu'on observe quand même, s'agissant des grosses fortunes françaises, c'est que c'est souvent des entreprises qui sont derrière, et que ceux qui héritent et qui reprennent en général... sont plutôt en général à la hauteur, et que quand on essaie de déstabiliser ce processus, on est plutôt confronté souvent à une déstabilisation et finalement à une perte de richesse pour la société. Donc moi, je ne suis pas contre le fait de transférer effectivement des patrimoines entrepreneuriaux. Par contre, s'agissant de sommes qui sont plus des liquidités, des actifs moins productifs, je pense que la logique américaine qu'on commence à voir s'ébaucher actuellement est la bonne. C'est-à-dire de finalement taxer très peu jusqu'à un certain montant raisonnable, et au-delà, taxer beaucoup plus, effectivement, pour éviter que des sommes très importantes se retrouvent entre les mains de gens qui n'ont effectivement pas beaucoup de mérite.
Yannick Mireur.
Il y a une remontée d'ailleurs des taux marginaux, hein, il faut quand même le dire, dans le plan Biden, une remontée des taux marginaux, notamment sur les gains des capitaux, non pas l'impôt sur le revenu, hein, encore une fois, mais les gains à partir des placements financiers qui peuvent être faits, qui ont remonté vers les 43%, ce qui est quand même aussi quelque chose d'assez beaucoup plus bas que ce qui se pratique dans certains pays d'Europe, y compris en France. Donc il y a là aussi une marge de manœuvre assez importante. Ensuite, sur le fond, c'est un petit peu ce que vient de dire Denis Père, c'est-à-dire que ce sont des questions un petit peu philosophiques de savoir jusqu'où peut aller l'accumulation du capital, distinguer déjà les avoirs fixes d'une entreprise, d'un outil économique, c'est une chose complètement différente, qui va dans le bon sens, puisque ce que essaie de conserver au fond, certains des milliardaires acteurs ou entrepreneurs comme Warren Buffett dont vous avez parlé, milliardaire à l'américaine, qui avec beaucoup plus de zéro que chez nous, c'est au fond l'esprit d'entreprise, l'esprit d'innovation, être un petit peu sur le tenu, sur le qui-vive.
Mais c'est de moins en moins vrai. Bernard Arnault est devenu le deuxième milliardaire le plus riche de la planète.
Enfin, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt quand même, monsieur Arnault, pour ce qui est de l'Europe, parce qu'on ne peut pas comparer, si vous voulez, le tissu de fortune. Mais si on prend même un seuil tout petit aux États-Unis d'un million de dollars, si vous prenez ce seuil-là, il y a énormément plus de monde, et maintenant même en Chine, bon, ça c'est un autre sujet, aux États-Unis traditionnellement que chez nous. Car encore une fois, il n'y a pas de limite. J'entendais par exemple un sénateur parler l'autre jour, qui a fait le discours contre le discours de M. Biden, en réaction à M. Biden, et fortune estimée du couple 300 millions de dollars. Ça n'arrive pas chez nous, ça. Donc il y a quand même, si vous voulez, une dimension de proportion, mais aussi très profond en racine, si je puis dire, l'esprit d'entreprise, de création, de risque et l'innovation. Donc c'est un équilibre entre les deux, alors que nous, on regarde plus
l'égalité des chances. Oui. Non pas que ce soit moins bien, mais si vous voulez, ce sont des ajustements, des équilibres quantitatifs, mais qui disent aussi de la philosophie qu'il y a derrière.
Alors justement, Frédéric Moréas, puisqu'on parle d'équilibre entre les petits héritages et les grands héritages, les grandes fortunes, vous êtes avocat fiscaliste à Challenge Avocat, est-ce qu'en proportion, chez nous, en France, on est plus avantagé quand on hérite d'une grosse fortune ou d'une grosse succession ?
Alors là aussi, ça dépend évidemment. Si vous héritez des liquidités et d'immobilier, à ce moment-là, vous serez taxé dans les taux les plus élevés, c'est-à-dire jusqu'à 45%, au-delà d'1,8 million. En revanche, si vous héritez d'une entreprise, on a des dispositifs d'exonération.
Mais après, il n'y a plus de plafond au-dessus
d'1,8 million. Au-dessus d'1,8 million, c'est
45%. On est au seuil maximal de 45%.
Et on reste à 45%.
Et on reste à 45%. Exactement. On hérite de 1 milliard, de 500 millions 45. Ou de 2 millions.
Exactement.
45.
45, c'est le maximum.
Et si d'ailleurs, on hérite 200 000 euros ?
C'est ce que Biden a instauré comme taux. Le taux maximum sera de 45%.
45%, ce sera
le même. Ce sera le même. Il y a une convergence quand même entre la France et les États-Unis qui s'opère, on le remarque, en fiscalité, puisque Biden a fait voter, souhaite faire voter l'impôt minimum sur les sociétés à 21%, et Paris et Berlin ont dit de concert qu'ils souhaitaient se joindre à cette initiative. Il y a une convergence fiscale qui s'opère entre la France et les États-Unis. Il y a une convergence de vues.
Oui. Est-ce que vous comprenez l'argument aussi de Nipper qui est aussi de dire il y a une volonté simple et il y a une logique assez simple dans l'héritage, c'est de dire on a construit tout au long de sa vie pour transmettre à ses enfants, pour qu'on espère pour eux un avenir un peu meilleur, donc il n'est pas question qu'on nous prenne ce petit capital qu'on a envie de leur transmettre. Oui. Une question de liberté qui date d'ailleurs de ce point de vue-là de la Révolution française et du droit à l'accès à la propriété.
Absolument, je crois que c'est effectivement un des éléments fondateurs de notre société. Je pense qu'il faut autoriser effectivement la transmission à ses enfants du fruit de son labeur jusqu'à un certain niveau. Voilà. Je crois qu'il faut que ce soit raisonnable.
Alors, quel est le bon niveau ?
Et alors, quel est le bon niveau ? Bien sûr, il y a un débat là-dessus. Les Américains considèrent qu'il est entre 5 et 11 millions de dollars. Hein, on l'a dit tout à l'heure, la franchise. Nous, on considère qu'au-delà de 100 000 euros donnés à un enfant, c'est terminé.
Mais donc, il y a peut-être.
Bah, je pense que je suis plus du côté des Américains. Je trouve qu'on ne laisse pas suffisamment, effectivement, transférer facilement de l'argent à ses enfants, même si effectivement les fortunes françaises, vous l'avez rappelé, sont beaucoup moins importantes qu'aux États-Unis. Je trouve qu'effectivement l'abattement de 100 000 euros par enfant, c'est quand même très très faible.
Le capital de Thomas Piketty, qui est un livre dont tout le propos est de dire qu'aujourd'hui, ce qui favorise et ce qui entretient les inégalités de la société, que ce soit aux États-Unis, en France et partout dans le monde, ce sont les héritages, les grosses fortunes. Qui s'hérite de génération en génération et qui, de fait, continue à instituer ces inégalités.
Moi, je trouve qu'en France aujourd'hui, un des facteurs les plus graves qui provoque aujourd'hui des inégalités sociales, c'est l'éducation. Et malheureusement, les tests PISA le montrent régulièrement. Aujourd'hui, on reproduit les inégalités sociales à travers l'éducation. Je pense que le premier sujet en France, c'est de travailler sur le système éducatif pour faire en sorte que des gens issus de milieux modestes puissent accéder à une éducation de qualité, ce qui n'est absolument pas le cas, avant d'ouvrir ce débat sur l'héritage. Encore une fois, l'héritage en France est très, très taxé, beaucoup plus qu'aux États-Unis, même après la réforme de Biden. Hein, 20% des héritages sont taxés, aux États-Unis seulement 1 pour 1000. Donc les États-Unis restent un paradis fiscal largement, même après la réforme de Biden. Donc je pense que le sujet en France, il est beaucoup plus sur la qualité des services publics, l'efficacité, et en particulier en matière d'éducation.
Il est aussi le sujet de l'éducation très présent aux États-Unis. Parce qu'il y a aussi, il y a des questions raciales, on a vu s'exprimer récemment, des questions de discrimination. Donc la question de l'égalité des chances est un sujet qui se pose aussi, un sujet de fond de société, pas seulement entre races, mais aussi sur l'échelle des revenus. Un des critères pour revenir à la situation française, ce serait de mesurer, par exemple, la valeur de certains biens immobiliers, par exemple, puisque certains biens immobiliers, que ce soit des maisons de famille, si elles sont assez grandes, ou les appartements à Paris, par exemple, qui ne dégagent pas de revenus, mais qui coûtent, forcent certains héritiers à s'en séparer. Donc, on est très loin des 5 à 11 millions de dollars. Nous, comme vient de le rappeler Denis Père, on est très bas. Et l'immobilier, pour avoir quelque chose de raisonnable, pourrait être un indicateur, l'immobilier de résidence principale, j'entends, pourrait être un des indicateurs.
Pour revenir sur votre exemple et essayer d'être tout à fait concret pour les gens qui nous écoutent, il y a beaucoup d'auditeurs d'Europe 1 qui habitent dans des grandes agglomérations où le prix du mètre carré est très cher. À Paris, c'est plus de 10 000 euros. C'est presque le cas aussi à Bordeaux. À Lyon, c'est un peu moins, mais c'est cher et également. Si vous n'êtes pas un héritier aujourd'hui, si vous n'héritez pas d'un bien immobilier, par exemple, à Paris, même avec votre travail, il vous faut gagner des sommes absolument considérables pour aujourd'hui avoir accès à la propriété. C'est une forme d'injustice, ça, tout de même, Frédéric Moreas.
Alors, on dit malgré tout qu'il y a trois formes d'héritage. C'est-à-dire qu'il y a l'héritage économique.
Juste pour donner un, pour les gens qui n'habitent pas Paris, j'ai vu dans une étude tout à fait récente que pour pouvoir acheter un bien de 75 mètres carrés, on ne parle pas d'une grande maison avec un jardin, il fallait gagner minimum 10 000 euros par mois. 10 000 euros par mois. Donc, l'inégalité de transmission d'un petit bout de patrimoine, on ne parle pas des super riches, on parle d'un petit bout du patrimoine, elle a quand même une conséquence au bout du bout.
Bien sûr, mais il y a différentes inégalités, c'est-à-dire qu'il y a l'inégalité économique qui existe, qui est l'héritage, mais après il y a l'héritage social et l'héritage culturel. Et l'héritage économique peut être pallié par l'héritage social et culturel, et on ne pourra jamais faire, entre guillemets, abstraction, ces deux héritages-là qui sont importants dans la construction d'un homme et qui peuvent l'aider à gravir l'échelle sociale, on va dire que c'est ça le but.
À ceci près que pour arriver à un, pardon de revenir à mon exemple, pour arriver à un salaire équivalent à l'achat d'un 75 mètres carrés à Paris, c'est-à-dire 10 000 euros par mois, vous pouvez faire toutes les plus grandes études que vous voulez, il y a peu de chances que vous y arriviez.
Tout à fait, mais vos parents peuvent vous l'acheter et vous loger dedans. Ah. Donc
c'est
tout
une forme
possible.
D'héritage.
C'est
tout une
est
forme
possible.
D'héritage.
Oui, effectivement, l'accès à l'immobilier, l'accès à la propriété est un vrai sujet. Il y en a au moins quand même pas mal de mécanismes en France. Il en faut peut-être plus d'ailleurs, avec des prêts à taux zéro, avec des aides diverses, des plans d'épargne, etc. C'est peut-être sur ce volet-là qu'il faut travailler, effectivement, pour permettre un accès à l'immobilier, un accès à la propriété beaucoup plus facile. Mais interdire justement à une famille, quelqu'un qui a travaillé très dur toute sa vie, de transférer justement un peu d'argent à son enfant pour précisément lui permettre de se loger à Paris, je pense que c'est aussi quelque chose de parfaitement injuste. Donc il faut trouver un équilibre qui est en train de se trouver apparemment aux États-Unis, un peu moins chez nous pour l'instant.
Comment les Américains réagissent d'ailleurs à ces annonces qui sont, j'utilise ce mot tout à l'heure, je ne sais pas si vous êtes d'accord Yannick Mireur, mais une révolution qui s'apparente presque à du socialisme. Hein. Il va bien au-delà de ce qu'a fait Obama par exemple pendant sa présidence.
Pour beaucoup d'Américains, oui, ça dépend de la façon dont c'est annoncé. Je veux dire qu'il a essayé dans ses discours de s'écarter de tout discours idéologique sur ces mesures pour se focaliser sur l'emploi et la croissance qui puisse être durable demain aux États-Unis. Ce qui a permis de relever le détonateur, si je puis dire, de la polarisation idéologique entre le Parti républicain et le Parti démocrate. Par rapport à l'opinion, en revanche, il est certain qu'une bonne partie voit en ça une nouvelle main de l'État chez eux, et c'est, si je puis dire, irrémédiable et irréfutable pour une bonne partie d'entre eux. Pour d'autres, en revanche, l'argument, même si on est aux États-Unis, c'est-à-dire les classes populaires et moyennes, pour être précis, que vise M. Biden, et qui ont été la colonne vertébrale d'ailleurs de l'électorat partagé entre les deux côtés, droite et gauche aux États-Unis, pour cet électorat-là, qui a vu le salaire médian américain stagner depuis les années 80 dans le contexte de la mondialisation et les erreurs économiques qui ont été commises, pour cela, ils n'en ont rien à faire. Pour cela, en effet, c'est juste, puisqu'on revient de le dire, les 1% dont on parle aux États-Unis, c'est stratosphérique par rapport à l'Europe. N'est-ce pas ? Et donc, si je puis dire, vous voyez avec les chiffres qu'on vient de donner, c'est quand même tout à fait marginal. Ça ne fait de mal à pas grand monde et ça reste un paradis fiscal, comme Denis Père vient de le rappeler assez judicieusement.
Denis Père.
Oui, c'est intéressant, effectivement. Tout ça est très juste. Biden a récupéré le vote populaire, le vote des classes moyennes, qui était parti chez Trump, chez les Républicains, qui a été abandonné. Le vote populaire a été abandonné par Clinton, essentiellement, effectivement, avec la signature de l'ALENA, l'accord de libre-échange avec le Mexique, qui a créé beaucoup de pertes d'emplois, de délocalisation, en particulier dans le Middle West américain. Et donc, beaucoup de ces gens qui ont perdu leur travail ont perdu espoir dans le Parti démocrate, qui s'est orienté plus à cette époque-là sur ce qu'on appelle l'identity politics aux États-Unis, c'est-à-dire les minorités, les mouvements LGBT, afro-américains, hispaniques, etc., et a délaissé les classes populaires. Et ce que Biden a fait, c'est qu'il a réussi à récupérer une bonne partie de cet électorat populaire en promettant de créer des emplois, des bons emplois de qualité pour les classes populaires américaines, en promettant d'être plus dur avec la Chine que Trump. Et donc là, il est complètement cohérent. Et il lance un programme d'investissement massif dans les infrastructures pour créer ces fameux bons emplois bien payés pour les classes populaires. Et donc, il est obligé de trouver des moyens. Et pour ça, il va taxer les plus riches, mais de façon raisonnable.
Alors, vous savez qu'en France, le débat autour de l'héritage agite la classe politique depuis bien longtemps, dans un passé relativement récent. Par exemple, Christophe Castaner, en septembre 2018, quand il était le patron du parti Les Républicains, disait ceci.
Il nous semble essentiel d'ouvrir une réflexion, sans tabou, en vue de réfléchir à la refonte en profondeur de la fiscalité sur les successions dans notre pays.
Ouais, La République en marche. Ici Christophe Castaner en 2018 et Gérald Darmanin, un an plus tard, quand il était ministre de l'Action et des Comptes Publics, disait ceci.
J'ai proposé au président de la République, dans le cadre du grand débat, la facilité des donations, non pas la fin des taxations sur l'héritage, mais pour permettre de mieux donner du capital dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, on hérite à 50 ans. Dans 10 ans, on va hériter à 60 ans. Est-ce qu'à 60 ans, on a besoin de l'héritage de ses parents? Je pense que c'est plus à 25, 30 ou 35 ans. Donc il faut allier l'espérance de vie et notre fiscalité moderne.
Alors ça, c'est un sujet dans le sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont ceux que l'on appelle les boomers qui, principalement... héritent de leurs parents, alors que c'est le moment de la vie, après 50 ans, après 60 ans, c'est ce que dit très bien d'ailleurs Gérald Darmanin, où on a le moins besoin, entre guillemets, d'hériter, même si on a toujours besoin d'un peu plus d'argent, Denis Père. Donc l'idée de favoriser l'héritage relativement jeune pour un actif qui rentre dans la vie active, ça c'est intéressant.
Oui, il a tout à fait raison. Aujourd'hui, c'est un vrai sujet. On hérite vieux, on hérite à 60 ans, à un moment où on a fait sa vie en général, on a moins besoin d'argent. Et on a plutôt besoin d'argent, mais plutôt pour acheter...
Tu as fait vieux à 60 ans, Denis Père.
Je m'en rapproche, donc je me mets dans la cible. Mais en tout cas, plus vieux que quand on a besoin de cet argent-là pour acheter précisément un appartement, par exemple, à 35-40 ans. Et donc, c'est vrai que c'est une bonne idée d'essayer de faciliter les donations. Et notre avocat fiscaliste va nous éclairer là-dessus. Mais aujourd'hui, tout ça est très plafonné aussi. C'est-à-dire qu'on peut faire des donations que tous les 15 ans, ça a été repoussé, sur des sommes qui sont relativement modestes, 100 000 euros, voilà.
Donc, pas si mal, 100 000 euros.
C'est pas si mal, c'est mieux que rien, mais pour acheter le fameux 75 mètres carrés à Paris, il faut beaucoup plus.
Il faut beaucoup plus. D'ailleurs, Frédéric Moreas, quel est le volume moyen d'une donation aujourd'hui en France pour tout à chacun?
C'est-à-dire, généralement, on va aux donations exonérées, c'est-à-dire 100 000 euros, on va au maximum, et on attend les 15 ans, et après on refait une donation, etc., etc., etc. Il faut savoir que les 100 000 euros, c'est par parent, par enfant. Ce qui veut dire que s'il y a un couple qui a un enfant, il peut donner chacun 100 000 euros. Donc, ça veut dire 200 000 euros pour cet enfant. Voilà, ça fait une petite somme.
Il y a beaucoup de Français qui sont en capacité de donner comme ça 200 000, 300 000, 400 000 euros.
Ça représente très peu de gens, puisque les successions taxées, c'est 20% en gros des successions totales. Donc, c'est très, très peu de gens. Et donc, les donations, c'est effectivement, ça concerne très, très peu de gens. Et ça concerne les 20% les Français
les plus aisés. Les 20% les plus aisés. Et comment est-ce qu'on peut faire, pour rejoindre ce que disait Denis Père, pour favoriser les donations aux jeunes actifs?
Alors, si on veut utiliser l'outil fiscal, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est-à-dire de taxer plus les successions et d'alléger, comme disait M. Darmanin, la fiscalité sur les donations. À ce moment-là, vous faites circuler l'argent beaucoup plus rapidement.
Ça a été fait, ça, d'ailleurs?
Alors, ça a été fait partiellement, puisqu'il y a eu une mesure qui est dans la loi de finances de l'an dernier, qui concerne les donations et qui permet aux parents de donner à leurs enfants à condition que ceux-ci investissent dans, par exemple, leur résidence principale. Voilà, ce qui est partiellement, mais c'est un sujet complexe.
Bien, ça existe aux États-Unis, Yannick Mira? Les donations pour les jeunes actifs, est-ce qu'on peut donner à n'importe quel moment de la vie un petit quelque chose?
À n'importe quel moment, oui, le dispositif précis, je l'ignore bien sûr, parce que je ne suis pas concerné par la situation malheureusement, ce serait pas mal, mais si je puis faire un parallèle et avec cette dimension générationnelle qu'on vient d'évoquer, ça me rappelle un petit peu notre problème ici en France, ça me rappelle un petit peu le mot d'ordre d'un ancien président du Conseil, enfin Premier ministre au 19e siècle qui s'appelait François Guizot, enrichissez-vous. Comment on peut permettre aux Français de s'enrichir sans créer de climat de lutte de classe, puisque c'est aussi une des différences qui nous sépare des États-Unis, c'était le rapport à l'argent. La réussite aux États-Unis inspire, si je puis dire, des suiveurs, de l'imitation. Alors qu'ici, elle inspire, comme le président Giscard d'Estaing l'avait dit, un trait de caractère français malheureux et assez établi chez nous, qui est la jalousie. Donc la question serait d'en sortir, et ce sont les outils fiscaux, ainsi que l'outil politique, c'est-à-dire la pédagogie pour expliquer ce que l'on veut faire et où on veut aboutir.
Et là, pardon, mais on en revient à ma citation tout à l'heure avec un peu de malice, mais quand même, Beaumarchais 1778, qui écrivait dans Le Mariage de Figaro, qu'avez-vous fait pour tant de bien? Vous vous êtes donné la peine de naître et rien de plus. C'est vrai que dans une société où on met un peu au-dessus de tout, d'ailleurs la droite et la gauche, Nicolas Sarkozy l'a très bien dit en son temps, la valeur travail, aujourd'hui le travail ne permet pas tout, et le travail ne permet pas toujours de s'élever dans la société, quand bien même on a un travail important, intéressant et qu'on y met du cœur.
Ah oui, absolument. Enfin, d'autant que la fiscalité, alors dans son ensemble, est quand même très élevée en France. On ne le rappelle pas suffisamment, mais on est le pays le plus fiscalisé au monde, avec des prélèvements qui sont à 46 points de PIB. Ça fait déjà 2 ou 3 ans qu'on est les premiers au monde, devant même des pays qui ont des impôts très élevés, comme le Danemark ou la Suède. Donc la première question à se poser, c'est de savoir comment donner plus de pouvoir d'achat aux Français, en baissant aussi cette fiscalité, en ayant une plus grande efficacité de notre dépense publique. Je parlais tout à l'heure de l'éducation, mais on a vu le système de santé récemment, qui coûte quand même très très cher et qui est loin d'être le meilleur du monde. On voit bien qu'on a des vrais problèmes d'efficacité de la dépense, et c'est plus là-dessus qu'il faut s'interroger pour donner du pouvoir d'achat aux Français, leur permettre de mieux vivre.
Tiens, une petite réaction à chacun, puisqu'on parlait de donation aux jeunes actifs, 25 ans pour bien démarrer dans la vie. Il y avait une idée qui circulait dans les think tanks à un moment de gauche, exactement, notamment en 2017, qui a été repris par Thomas Piketty, l'économiste, l'idée de taxer l'héritage très fortement, les hauts héritages, et d'en faire un nouvel axe de redistribution avec un capital de départ. Alors, il y avait une étude qui avait été menée, qui disait que le patrimoine des Français est estimé à, grosso modo, 12 000 milliards d'euros, que la population française est de 67 millions d'habitants. Ainsi, lors de chaque naissance, un Français toucherait près de 180 000 euros et aurait un capital de départ. Alors, ça peut faire sourire parce que c'est un peu de l'argent gratuit, mais ce n'est pas si éloigné de ce qu'ont fait nos amis américains avec le fameux argent hélicoptère où on a distribué des chèques à tous les Américains. Pas dans cette proportion-là, évidemment, mais quand même. L'idée est séduisante sur le papier, mais est-ce que ça peut fonctionner, ça, Frédéric Morias ?
Cette idée a été soulevée encore récemment par La République En Marche, qui a voulu donner 10 000 euros à chaque jeune entre 18 et 25 ans au début de l'année 2021. C'est une idée qui revient régulièrement pour essayer de créer une équité sur l'héritage économique. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est tenable ? Ça va être difficile.
Yannick Mirard ?
Il me semble aussi, parce que c'est une question d'usage quand même, et puis de fonctionnement général de la société. Donc un tel bouleversement de la fiscalité me paraît assez douteux.
Je ne sais pas si c'est très bon pour l'inflation, parce que donner de l'argent gratuit à tout le monde...
Pour des tas de choses, ce serait à l'infini, si vous voulez. Par contre, ce dont nous aurions besoin pour avoir un discours assez transparent, désidéologisé politiquement, c'est de savoir quelle serait, en termes de fairness, c'est-à-dire d'équité, la part du capital, la part du travail dans la fiscalité. Et c'est-à-dire favoriser le travail et pour pénaliser un petit peu plus certains gains de capitaux. C'est ce qu'a essayé de faire avec les filles du président de la République pour orienter vers les investissements productifs, les entreprises, plutôt que vers la rente foncière, qui est aussi un vieux trait multiséculaire de notre société française.
Je suis sûr qu'on aura l'occasion d'en reparler pendant la campagne présidentielle qui n'est pas encore tout à fait commencée. Merci à tous les trois d'avoir débattu avec nous ce soir de cette notion de l'héritage.
Europe 1, Julien Bugier.
Allez, on se retrouve dans quelques secondes avec les archives d'Europe Soir et on reviendra ce soir sur la disparition, souvenez-vous, de la petite Maddie McCann qui avait ému l'Angleterre. C'était il y a 4 ans, jour pour jour. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Avec la suite du Club des Idées, comme chaque soir à cette heure-ci, les archives d'Europe Soir. 3 minutes pour comprendre, ça s'appelle le jour où.
C'est hier que le général de Gaulle est mort.
Finale de Coupe du Monde.
Moi, président de la République.
Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement.
Yes, we can.
Europe 1.
Bonsoir, Gladys Laffitte.
Bonsoir.
Alors, ce soir, on remonte 14 ans en arrière. J'ai dit tout à l'heure 4 ans, mais bien sûr, 14 ans en arrière. C'était le 3 mai 2007, à Praia da Luz, une station balnéaire dans le sud du Portugal. Une petite fille britannique disparaît, c'est la petite Maddie McCann.
Oui, Maddie, presque 4 ans. Rappelez-vous de ce visage rieur, les cheveux blonds coupés au carré, les yeux bleus. La famille McCann est alors en vacances dans un complexe hôtelier. Et ce soir-là, les parents dînent avec des amis au restaurant de l'établissement, à 100 mètres de l'appartement. À 22h, la maman vient vérifier que les enfants dorment paisiblement, sauf que Maddie a disparu. Et les jours qui suivent, la panique s'empare des habitants. Emmanuel Renard les a rencontrés à l'époque pour Europe 1.
À Praia da Luz, on ne voit plus un enfant seul, à pied ou à vélo, comme c'est le cas habituellement. C'est un village paisible, nous dit Hélène, qui a perdu son âme.
Je suis sous le choc, vraiment choqué. J'habite ici depuis presque 20 ans et je n'ai jamais vu une chose pareille.
Alors très vite, la thèse de l'enlèvement est privilégiée, mais il n'y a pas d'indices, pas de témoins, les recherches ne donnent rien, le mystère est total. Mais c'est sans compter sur la détermination des parents de Maddie. Ils diffusent des portraits de leur fille dans le monde entier, font appel aux stars du showbiz, et notamment dans leur pays, en Angleterre, où se trouvait Jean-Bernard Cadier pour Europe 1.
Une vidéo de 2 minutes a été présentée à la mi-temps de la finale de la Coupe d'Angleterre. Un superbe montage photo de la petite Madeleine sur un air de Simple Minds, « Don't you forget about me ». Ne m'oublie pas.
Alors, est-ce que ces multiples appels à témoins finissent par fonctionner et porter leurs fruits ?
Eh bien, pas du tout. Au contraire, nous sommes 7 mois après la disparition. Énorme rebondissement, la police portugaise met en examen les parents de Maddie. Ils auraient tenté de cacher un accident domestique. C'en est trop pour Kate et Jerry McCann. Ils quittent le Portugal, comme le raconte Maxime Switek pour Europe 1.
Certains commencent à se poser des questions sur les compétences des policiers portugais, comme la famille McCann. Écoutez John, je l'ai rencontré sur le front de mer cet après-midi. Et d'après lui, si l'affaire avait eu lieu en Angleterre, les choses seraient allées plus vite.
Je crois que nous, on aurait déjà trouvé quelque chose avec tous nos experts.
Oui, et c'est ce qui se passe d'ailleurs, Gladys, hein, la police anglaise se penche sur le dossier.
Oui, mais pas avant plusieurs années et une multitude de signalements venus du monde entier qui débouchent toujours sur une impasse. On ne sait toujours pas où est Maddy et ce qui lui est arrivé. Scotland Yard finit par demander la réouverture de l'enquête en 2012 et selon eux, elle pourrait être encore en vie. Reportage Europe 1 d'Amandine Alexandre.
Ils ont travaillé avec des enquêteurs portugais différents de ceux qui avaient mené l'enquête en 2007. Scotland Yard a également publié une photo de Maddy, une photo vieillie par ordinateur sur laquelle la petite fille a 9 ans. Et avec cette photo, ils ont lancé un nouvel appel à témoins.
Et pourtant, il faudra attendre juin 2020 pour qu'enfin un suspect sérieux soit identifié. Énième rebondissement de ce cold case, c'est un Allemand d'une quarantaine d'années emprisonné en Allemagne pour viol et agression sexuelle.
Nous savons formellement que le 3 mai 2007, le jour de la disparition de Madeleine, à Praia da Luz, c'est-à-dire le lieu même de sa disparition, et à une heure déterminante, le suspect a passé un coup de téléphone depuis son mobile.
Alors, est-ce qu'on a retrouvé Maddy depuis la mise en examen de cet homme ?
Eh bien non, hein, toujours pas. Et en plus, le suspect nie aujourd'hui son implication. Mais pour les autorités allemandes, ça ne fait aucun doute. C'est bien lui qui a enlevé et même tué la petite Maddy. Le mystère n'est donc pas totalement résolu aujourd'hui.
Merci Gladys Laffitte pour cette histoire et ce récit dont on se souvient évidemment tous. C'était il y a 14 ans. Merci à vous.
Europe 1, Julien Bugier.
19h56, dans un instant, le rappel de l'info, Julien Pierce et puis Émilie Mazoyer pour la musique. Salut Émilie.
Salut Julien.
Quel est le programme ce soir?
Ah, ce soir, on est très content de recevoir le groupe Trio.
C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal, crie le bienfort, use des cordes vocales.
Ça fait un moment qu'on les écoute Trio, la fin des années 90. Ouais, normalement, vous avez joué ça à la guitare sèche au collège ou au lycée, Julien, non?
Ouais, c'est ça, on n'est pas loin, voilà. C'est ça.
Et ils vont revenir avec un nouvel album à la rentrée, un premier extrait qui s'appelle En Marche, en replay. Ils viennent tout nous raconter dans musique.
Génial. Et bon, on se retrouve dans quelques instants avec toi. Dans un instant de rappel de l'info. Merci de votre fidélité. À demain 18h.